La marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, témoins et acteurs de l'histoire.
RDC. À Kinshasa, c'est une coutume. Péter la forme, même avec l'absence de la thune. Emprunter le fringue, histoire de garder le style.
Kin, c'est le parfum du Lingala dans le vent de la rumba. Poésie de Papa Lutumba, montée de Papa Wemba. Recommander à ceux qui doutent encore que la vie est belle. Bref, le Langila est l'argot du Lingala dont le quinoa détient le label. Les églises et les bars cohabitent dans des vrais battles de décibels. Parce que Kin, ça reste une ville conviviale qui accueille tout le monde, depuis Dieu jusqu'au diable.
La marche du monde vous invite à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, à la rencontre de sa jeunesse et de ses artistes, porte-parole poétique et politique d'un peuple congolais face à son histoire. Nous allons entendre des histoires justement grâce aux artistes slameurs du documentaire audio Kinshasa, des histoires à nous de Sébastien Godré, Benjamin Bibas. Et tout de suite, les manifestants anti-Kabila de l'été 2016, ceux-là même qui ont pris tous les risques pour obtenir le départ du président. Ils s'appellent Christian, Ben, Jean-Marie et ils sont les protagonistes du film documentaire Kinshasa Makambo, signé Dieudo Amadi, et ils s'expriment en Lingala.
Lumumba ebisaye biso ke histoire à Congo tou komango na ba congolais. Histoire à Congo, tu commences à yo, na yo, na yo, na yo, nanga. Parce que pour toi, comment histoire, ils ont l'obité, ils ont l'élo. Tu commences histoire à Congo, l'élo.
Lumumba a dit, l'histoire du Congo sera écrite par les Congolais. L'histoire du Congo sera écrite par toi, par lui, par elle, par moi. Cette histoire doit s'écrire aujourd'hui, pas demain.
Nous sommes à l'été 2016 en RD Congo. Le second mandat du président Kabila arrive à terme, mais il semble s'accrocher au pouvoir. C'est l'argument du film de notre invité Dieudonné Amadi. Bonjour Dieudonné.
Bonjour.
Et bienvenue. Merci. Sur RFI. Pour quelles raisons vous avez décidé de prendre votre caméra et de filmer les manifestations de rue à Kinshasa cet été-là?
Parce que j'ai senti que c'était un moment historique. Dans les rues, on sentait les gens gronder. Beaucoup de gens n'étaient pas prêts à laisser un mandat supplémentaire au président Kabila après les deux mandats constitutionnels. Et j'étais aussi frappé par le courage de jeunes qui avaient la plupart mon âge, ou même un peu moins, mais qui défiaient le régime, qui n'hésitaient pas, par exemple, à tirer à bout portant, à balles réelles. Et je me demandais, étant cinéaste, qu'est-ce que j'allais faire à ce moment-là, ne serait-ce que pour la mémoire. C'est ainsi que je me suis lancé dans l'aventure.
Votre film, tourné en 2016, est effectivement un véritable document. Et c'est pour cela que je tenais à vous recevoir, Dieudonné Amadi, dans La Marche du Monde. Car vous montrez le processus de conscientisation de la jeunesse congolaise qui cherche à prendre en main son avenir face à un pouvoir qui ne respecte pas la Constitution, vous l'avez dit. Donc il y a une conscience politique dans cette jeunesse et, malgré l'analphabétisme, une volonté de faire respecter la loi. Il y a un sens de la loi pour tous.
Oui, encouragé aussi par les réseaux sociaux. Parce que ce qui s'est passé en 2016 à Kinshasa et partout dans le pays, il faut le prendre un peu plus globalement avec ce qui s'était passé en Afrique du Nord, par exemple, avec le printemps arabe, ce qui s'est passé ensuite au Sénégal, au Burkina Faso. C'est là a servi un peu de source d'inspiration pour beaucoup de jeunes et qui voulaient reproduire, entre guillemets, l'exploit de ces autres jeunes africains au Congo.
Alors nous connaissons aujourd'hui la fin de l'histoire après avoir repoussé les présidentielles pendant plus de 3 ans. Les élections de décembre 2018 sont gagnées par Félix Tshisekedi, le fils d'Étienne Tshisekedi, figure éternelle de l'opposition. C'est l'alternance et c'est donc historique. Vos trois personnages, Christian, Ben et Jean-Marie, est-ce qu'ils l'ont ressenti comme une victoire?
Oui et non. Ils sont contents que Kabila soit parti. Mais en tout cas, pour avoir parlé avec Jean-Marie et Ben, ils voudraient bien voir ce que va faire le nouveau président pour être sûr que les changements tant attendus sont effectivement acquis.
Ils ont le sentiment que c'est de la vieille politique qui est au pouvoir.
Oui, parce que c'est un secret de polichinelle. Ça se dit partout à Kinshasa aujourd'hui qu'il y a eu un arrangement entre le président sortant et le nouveau président. Et tous ces jeunes des mouvements, citoyens, dits citoyens, sont un peu dans cette réserve-là. Ils ne savent pas dans quelle mesure la victoire du président Félix Tshisekedi a été vraiment méritée ou pas. Mais seulement, dans l'ensemble, la plupart des gens, la plupart des Congolais, sont au moins contents du fait que, même symboliquement, que ce combat pour l'alternance a pu avoir lieu.
Alors ce n'est pas ici l'histoire des élections, mais bien l'engagement de la jeunesse congolaise qui nous intéresse. Et je vous propose de rembobiner votre film, Kinshasa Makambu, pour faire connaissance avec vos personnages. Et tout d'abord avec Christian qui va nous rejoindre tout à l'heure. C'est la belle surprise que vous nous faites aujourd'hui, Dieudo Hamadi. Christian vit avec sa mère, elle s'inquiète pour elle, elle désapprouve son engagement politique et elle lui rappelle que Lumumba est mort en voulant libérer son pays. Sous-entendu, mon fils, tu ne seras pas le prochain sur la liste, s'il te plaît. Dans votre film Kinshasa Makambu, on rencontre également Ben, on l'a cité, et lui, pour sa part, a décidé de rentrer au pays en 2016, alors qu'il s'était justement exilé pour des raisons politiques.
Allô papa, c'est Ben. Et ça Ben. Ben. Ma zone à Kina.
Je suis à Kinshasa.
Que fais-tu à Kinshasa, Ben?
L'idée était de... Je veux revenir et vivre ici de nouveau.
Tu veux vivre à Kinshasa de nouveau?
Ouais.
Pourquoi?
J'ai eu tellement de difficultés dans mon exil, je pense qu'il est plus sage de rentrer à la maison. J'ai surveillé la situation à Kinshasa depuis Brazzaville, où j'ai des amis, et ils connaissaient quelqu'un qui m'a fait une fausse identité. C'est ce que j'ai utilisé quand j'ai traversé le fleuve.
D'accord, mais compte tenu des problèmes que tu as eus lorsque tu es parti, je ne pense vraiment pas que ce soit un bon moment pour revenir.
Ne t'inquiète pas, je vais garder profil bas.
Reste loin des manifestations. Ne fais pas confiance à tes amis. Et ne dis à personne que tu es revenu. Le pays traverse des temps agités. Tu dois faire très attention.
Extrait très impressionnant du film de Dieudonné Hamadi, Kinshasa Makambu. Les enfants veulent manifester, les parents sont inquiets. En 2016, ils tentent de les dissuader, mais les enfants descendent dans la rue à Kinshasa. Et vous les suivez, Dieudonné Hamadi, avec votre caméra. Comment ça se passe sur le terrain?
Ça se passe un peu comme on voit dans le film. D'une part, moi, je ne sais pas ce que je voulais faire, honnêtement, parce que je n'étais pas... de ces Congolais-là qui voulaient affronter de main nue à main nue le régime en place à l'époque. Mais par contre, pour les raisons de ce film, j'étais obligé, pour restituer le courage et la détermination de ces jeunes, j'étais obligé de prendre les mêmes risques que eux. Et c'est ainsi que je me retrouvais dans les manifestations, et à courir quand il fallait courir, à me cacher et ainsi de suite.
Comment vous avez observé justement cette confrontation violente et qu'est-ce que ça vous a appris de la façon dont le pouvoir, au fond, reçoit ces manifestants?
Alors, j'étais quand même ému. Ému parce que je ne comprenais pas pour quelles raisons profondes ces jeunes s'exposaient ainsi à la mort. Parce qu'il était évident que sortir pour aller manifester, c'était quasiment signer son arrêt de mort. Je me rappelle même à l'époque, des généraux de la police passaient à la télévision pour menacer directement les familles en leur disant que si votre enfant compte bien sortir manifester aujourd'hui, assurez-vous que vous avez bien regardé sa photo parce que ça sera peut-être la dernière fois que vous l'aurez vue.
Est-ce que c'est ça qui explique l'inquiétude des parents, le fait que les parents, la vieille génération, ne veut pas y aller?
En partie oui, parce qu'un général, c'est quand même quelqu'un d'important, un chef de police qui menace aussi ouvertement de tirer sur les jeunes, ça doit forcément inquiéter les parents. Et c'est ça qui s'est passé. Et malgré tout, ces jeunes y allaient quand même. Malgré la peur, je me devais de raconter ça.
Et des jeunes qui posent bien sûr la question des moyens d'action, ils disent dans leur dialogue, poster sur Facebook et sur Twitter, est-ce que c'est suffisant? Autrement dit, ils se posent aussi la question du passage à l'action armée du Dieudonné Amadi.
On tendait vers ça déjà, parce que tout d'un coup, après l'émotion, après la rage, il se posait la question justement de comment arriver à bout d'un régime armé, alors que nous avons que de pierres et des bâtons. Et donc, les risques, c'était ça, je pense, c'est un peu pour ça aussi que le régime a reculé, parce qu'on a bien senti que des parts et d'autres, ça s'est radicalisé et c'était très dangereux.
Alors pour sa part, Christian Lumu reste fidèle à l'UDPS, le parti de Tiki Ekedi, et nous allons le retrouver dans un nouvel extrait de votre film, tandis qu'il s'installe avec nous dans ce studio, il est de passage à Paris et il vient témoigner dans la marche du monde.
L'UDPS, viva!
Viva!
L'UDPS, viva!
Viva!
Le parlementaire debout, viva!
Viva! Viva! Viva! Tshisekedi, chef de l'État!
Le président, l'idée en abus sur le baculaire est grave. Que ça soit ma résolution au Bazoakuna, Bissonabino, Namutu, Nabiso, Totia, Yangoke, le 19, sur le départ de Kabila. Et c'est ça la position du président du parti. UDPS, viva!
Viva!
Bato Bakoufaki, j'étais avec lui le matin, lorsque nous étions prêts en Kina Marche. Mais Batouana, Bazana, Bissot, les Souté. Pour nous remercier Bango, honorer Bango, nous devons être vigilants. Il le pèse, viva!
Viva!
C'est vous, Christian Lumu, que l'on entend dans cet extrait du film de Dieudonné Amadi, Kinshasa, Makambo. Bonjour Christian.
Bonjour madame.
Et merci d'être venu ici à Paris, à RFI, pour témoigner. J'aimerais tout d'abord que vous reveniez sur cette séquence. Vous qui êtes membre de l'UDPS depuis l'adolescence, qu'est-ce que vous leur dites en lingala, et en français d'ailleurs, aux militants?
Il s'agissait d'un vibrant appel à cette jeunesse. Et nous étions en pleine discussion avec les camps d'enfance, la Kabylie, parce qu'à l'époque, tout le monde craignait des violences, craignait encore une perte énorme en vies humaines. Et la communauté internationale, les confessions religieuses et la société civile, la plus grande partie, prenaient les discussions entre l'opposition et la majorité. Bien que nous étions plongés dans cette discussion, mais nous craignions aussi que le peuple soit roulé parce que l'histoire nous décèle le déconvenu autour de ça. C'est ainsi que je devais lancer cet appel vibrant à toute la base de l'UDPS parce que nous restions dans la démarche seule du départ des Kabila. Au plus tard, le 19 décembre, tel que prévoyait la Constitution.
Et dans le film, Christian, on vous entend discuter avec Ben, qui lui est du mouvement citoyen. Et pour lui, la solution, c'est la rue. Est-ce qu'à ce moment-là, vous croyez à cette alliance, justement, entre les jeunes politisés, les jeunes religieux et les jeunes, notamment, de la quatrième voie, le mouvement, un des mouvements citoyens?
Nous croyons aussi à la rue. Et c'est d'ailleurs, nous sommes le premier selon l'histoire, à pouvoir déclencher la lutte de la rue. Et nous y étions restés fidèles, fermes, nous étions restés fidèles dans cette logique. Mais cela ne pouvait pas exclure les discussions avec le camp d'en face. Parce que dans tout ce qu'on fait, il faut les dialogues, c'est aussi une ligne des voies pour trouver les solutions efficaces aux problèmes que connaissent les sociétés. Et nous étions aussi devant ces faits et nous avions y accordé de la chance à cette discussion et surtout nous étions aussi fidèles aussi dans la logique d'Hélary.
Et d'un mot, pour que nos auditeurs qui ne sont pas congolais puissent comprendre, Tshisekedi, Étienne, Moïse, comme il est surnommé, qu'est-ce qu'il représente pour vous, qu'est-ce qu'il représente pour le peuple congolais à l'époque?
Étienne Tshisekedi, à l'époque, il était la seule alternative au problème que nous connaissions. Il était comme étant le père de la démocratie, l'icône, les leaders derrière lesquels tous nous allions suivre ses pas.
Celui qui avait fait la prison pour ses idées.
Il a fait la prison, il a été torturé, il a été incarcéré, il a subi tout sauf rien à cause de la, en fait, pour la cause noble, c'est celle de la démocratisation effective de notre pays.
Mais le 19 décembre 2016, votre leader, Étienne Tshisekedi, crée la surprise.
Ce lundi à Kinshasa, en cette journée tant attendue du 19 décembre qui menaçait pourtant d'être explosive. À la surprise générale, Étienne Tshisekedi n'a pas donné de mot d'ordre et a fait le choix à la dernière minute de rejoindre la table des négociations menées par les évêques de la conférence épiscopale du Congo. Il a déclaré vouloir donner une chance à une sortie de crise pacifique afin d'éviter que le pays ne retombe dans de nouvelles flambées de violence.
Très franchement, je sais que vous êtes un jeune politicien, mais très franchement, on se remet dans le contexte de l'époque. C'est quand même une grosse déception.
Bien sûr, la majorité des Congolais étaient dessus. Pour la plupart des, voudraient assez que nous finissions avec Kabila par la rue. Certes, ça c'était la base sur la masse, mais les leaders aussi au regard de l'expérience qu'il a acquise. Et surtout que le Congo, nous avions à peindre au moins 6 millions de morts jusqu'à aujourd'hui. Personne n'en parle. Nous ne pouvions plus, plonger le pays encore dans cette crise pour qu'on puisse encore enregistrer une perte énorme en vie humaine. C'est ainsi que nous avions accordé la chance à ces discussions en étant fidèle à toutes nos convictions politique.
Alors ce sont des moments très, très bousculés et très bousculants puisque Étienne Tshisekedi meurt très peu de temps après justement ce discours. L'éternel opposant est mortel et là vous êtes submergé par l'émotion. Papa est mort, c'est ce que montre Dieudo Amadi dans son film Kinshasa Makambo. La douleur est immense pour ses partisans et en même temps pour Christian, pour Ben, pour Jean-Marie. Est-ce que Dieudo Amadi, c'est pas le moment de reprendre la main?
C'était l'idée de Ben. Il pensait que finalement, la disparition de l'icône, comme le disait Christian tout à l'heure, pouvait être l'occasion de remobiliser les rues, les masses, afin d'en finir avec le régime. Mais j'avais aussi noté qu'il y avait des réticences au sein du groupe par rapport à cette idée, parce qu'ils se sont rendus compte que chaque fois qu'ils comptaient sur un leader, qui ont des agendas, qui ont des plans qui ne sont pas forcément le leur. Il arrivait qu'ils étaient toujours déçus. Et ça, c'était Jean-Marie qui portait cette idée, qui pensait qu'il fallait maintenant qu'il était parti, de retourner dans les rues et d'essayer d'haranguer les foules et pour porter leur vision jusqu'au bout.
Dans un contexte de plus en plus violent, il y a d'ailleurs un crescendo de la violence dans votre film Dieudonné Amadi, avec ce danger de filmer toujours plus grand. Est-ce qu'à certains moments vous vous êtes dit non, là je ne peux pas y aller, je ne peux pas les filmer parce que est-ce qu'il vaut mieux que je reste en vie ou est-ce qu'il vaut mieux que je continue à faire mon travail de documentariste? Comment vous avez vécu ce crescendo de la violence?
Ah, déjà, je ne suis pas participé à toutes les manifestations. Il y en avait certaines qui étaient pour moi au-delà des limites. Par contre, j'étais conscient que je faisais un film et pour montrer ce que, pour ne serait-ce que construire un récit, il fallait bien que je sois par moment avec eux, même si c'était dangereux. Et voilà, parfois je prenais des risques et d'autres fois je préférais ne pas y aller.
Alors on a entendu Ben hein, au téléphone avec son père. Autre personnage, Jean-Marie, lui il revient dans son quartier, on le reconnaît, il est encouragé, félicité par ses amis. Puis il arrive dans sa concession à la maison où ses tantes, ses mamans s'émeuvent de le revoir et pour cause, elle pleure parce qu'il a... il a risquait tellement sa vie et elles lui disent que la politique finira lui aussi par le tuer. Pour quelle raison Jean-Marie a-t-il été torturé ? Parce qu'il a été torturé, vous filmez ses blessures face caméra. Vous avez compris quoi de son arrestation et pour quelle raison il a été à ce point torturé, dieudonné à Mathilde ?
Jean-Marie faisait à l'époque partie des jeunes qui étaient en première ligne. Il ne se cachait plus, il passait à travers les médias. Ils tenaient des propos jugés incendiaires par les autorités sur les réseaux sociaux. Et tout cela lui a valu une incarcération assez brutale et assez longue parce qu'il a dû passer plus de 8 mois en prison sans le droit de voir un avocat ni les membres de famille. Et je suis tombé ces jours-là à sa sortie de prison et je l'ai accompagné jusqu'à dans sa famille.
Comment agir ? Comment s'organiser face à un pouvoir répressif ? Ce sont les questions posées par Kinshasa Makambo, le film de Dieudonné Amadi.
Depuis quelque temps, nous assistons à des troubles dans le pays. Et tout ça, c'est dû au manque d'élections quoi, dans ce pays. Alors que depuis 2011, tout le monde savait qu'il y aurait des élections en 2016. Mais jusque-là, il n'y a rien et le peuple gronde, il y a des morts, il y a des troubles.
Madame, il faut poser les bases nécessaires pour aller à une élection et réunir les préalables qu'il faut.
Mais oui, mais vous avez eu tout le temps, depuis 2011.
Kabila, on te prévient, ton mandat est fini, tout a une fin. C'est le slogan des manifestants en 2016 à Kinshasa. Beaucoup d'entre eux font d'ailleurs partie de mouvements citoyens, comme la 4e Voie, ou encore de votre parti, l'UPDS. Christian, vous avez clairement milité contre le président Kabila et vous êtes arrêté en octobre 2017 en rentrant chez vous à Kinshasa. Vous êtes enlevé par des militaires en civil et sans passer devant un juge, vous restez en détention jusqu'en janvier 2019, soit quelques jours après l'annonce des résultats de l'élection présidentielle proclamant Félix Tshisekedi, le leader de votre parti du PDS, nouveau président de la RDC. Comment avez-vous vécu cette incarcération et l'évolution politique de votre pays, puisque finalement vous n'avez pas pu être acteur de cette alternance que vous avez tellement souhaité jusqu'au bout ?
Je pense qu'en fait, je me considère parmi les acteurs pour le fait que je me suis engagé pour cette cause noble. Quoique j'étais sous l'incarcération par les services de l'ANR à l'époque, dont les cachots sont fermés sur ordre du président de la République, mes impressions étaient celles de satisfaction parce que je croyais qu'un jour il y aurait de l'alternance au pays. Le peuple a vaincu par l'UDPS et aujourd'hui l'UDPS qui est bénéficiaire de l'alternance pacifique du pouvoir au sommet de l'État.
Alors évidemment, jeune leader politique, il nous dit que son parti a vaincu. L'avis de Dieudonné Amadi, réalisateur du film Kinshasa Makambo. Kabila finit par partir, c'est le fils de son éternel opposant donc qui a pris le pouvoir. Est-ce que c'est le combat de la jeunesse politisée de l'UDPS qui a gagné ou est-ce que c'est pour vous, tel que vous le montrez dans le film, j'ai le sentiment, la réussite de la jeunesse congolaise et y compris de la société civile congolaise ?
Moi, je suis un peu plus nuancé par rapport à l'enthousiasme manifeste de Christian, qui est lui partisan de l'UDPS. Pour beaucoup de jeunes comme moi et d'autres, c'est une bonne chose symboliquement que Kabila soit retiré, le président Kabila soit retiré et qu'un leader de l'opposition devienne président. Mais encore faut-il que nous puissions avoir un changement C'est lui qu'on espère depuis tous ces temps. C'est lui pour lequel beaucoup d'autres personnes sont mortes et qui ont dû sacrifier de leur vie pour que aujourd'hui ce que nous vivons puisse avoir lieu. Donc, le président Félix Tshisekedi, ça fait que 3 mois qu'il est au pouvoir. On espère qu'on lui laisse, en fait, pour moi en tout cas, je pense que c'est bien de lui laisser le temps de travailler et nous prouver que nous avons eu raison de nous battre, en tout cas pour ces jeunes. Nous avons eu raison de lutter et qu'il ne va pas décevoir tout l'espoir qu'il a suscité en devenant président de la République. Gangule numbuge ye ye, gangule numbuge ye, ya ya mudiva vadu gangule numbuga. Gangule numbuge ye ye, gangule numbuga, ya ya manu imedu gangule numbuga. Gangule numbuge ye ye, gangule numbuge ye, ya ya mudiva vadu gangule numbuga. Gangule numbuga ye ye, gangule numbuga, ya ya manu ile dumu gangule numbuga. Gangule numbuge ye dumu gangule numbuge ye ya ya mudiva va dumu gangule numbuga ale mbuga yigilugande gangule numbuge ye 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 ngola ne mbuga ye 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 oye ye gangule numbuga da nanyango ateki mboka nanga nanyango ateki mboka na mulili makambo mingi na mboko yo. Poeta mbola ifo kakana sima simisi makambo ebele na mboka na ngayo. Poeta mbola ifo kakana mulili yango bonyo yawe o.
Vous êtes bien sur RFI à Kinshasa, dans la rue, à la rencontre de la jeunesse militante, mais aussi des artistes auxquels nous donnons la parole dans la marche du monde. Je vous propose maintenant de découvrir un autre documentaire sonore cette fois. Il est signé Sébastien Gaudret et Benjamin Bibas. C'est Kinshasa, des histoires à nous, et c'est Benjamin Bibas qui nous explique pourquoi il a choisi de rencontrer les artistes de Kinshasa, capitale de la RD Congo. Yeah, ouais, oh.
Les artistes essayent d'influencer les gens qui les écoutent, mais surtout les artistes sont très influencés par les gens qui vivent la ville. Pourquoi ? Parce que à Kinshasa, les gens pour survivre sont obligés de créer leur vie en permanence. Il faut inventer des solutions au quotidien, chaque jour, pour aller chercher les 500 francs congolais qui nous manquent, pour aller nourrir son enfant ou prendre le bout de bus qu'il nous faut pour aller chercher la pièce détachée qui nous manque pour réparer la machine sans laquelle on ne peut pas vivre. Cette inventivité permanente des Quinois, en fait, inspire beaucoup les artistes quinois. Et du coup, faire un portrait des artistes quinois, c'est faire un portrait de tous les Quinois, c'est faire un portrait de la ville de Kinshasa.
Des artistes quinois qui donnent à voir et entendre le quotidien des Quinois, mais aussi des artistes qui s'interrogent sur l'histoire de leur pays, le Congo devenu Zaïre, devenu République démocratique du Congo.
Oui, alors une histoire très complexe, une histoire très traumatique, très violente à vrai dire. Il y a un artiste qui me semble caractéristique de ce que vous venez de dire, c'est Faustin Linikula, le chorégraphe, et qui dit « Moi, si je danse, si je fais de la chorégraphie, si j'essaye de créer, c'est pour essayer de me souvenir de mon nom. » Et si j'essaie de me souvenir de mon nom, c'est parce que je l'ai oublié. Je l'ai oublié dans ce fatras de crimes, de colonisation, de guerre, de couches culturelles d'un envahisseur qui est venu en chasser un autre, qui a été en fait ce champ de ruines finalement qui est l'histoire de mon pays. Eh bien, cette violence, il faut l'absorber, la population doit l'absorber. Les artistes s'inspirent beaucoup du quotidien de la population. Et une de leurs fonctions, et ils le disent, et singulièrement les slameurs le disent d'ailleurs, et bien une de leurs fonctions, c'est d'exorciser un peu cette violence pour pouvoir trouver une parole qui puisse sortir le pays de la violence.
Qu'il soit chorégraphe, peintre, musicien ou chanteur, les artistes que vous nous donnez à entendre, Benjamin Bibas, nous parlent plus particulièrement de leur rapport à Kinshasa, capitale. Kinshasa, capitale du Congo, où l'on parle le lingala. Et historiquement, le lingala est une langue choisie, imposée par Mobutu, président du Congo rebaptisé Zaïre, de 1965 à 1997. Car au fond, cette idéologie mobutiste, c'était le retour à l'authenticité africaine. On quittait le costume occidental pour porter le costume traditionnel. On laissait le français pour le lingala, en opposition au français, la langue du colonisateur belge. Et pour vous, c'était important aussi de faire entendre le lingala, la langue dans laquelle s'expriment les slameurs.
Tout à fait. Alors, il s'exprime en lingala, mais il s'exprime aussi en français, et il s'exprime aussi en linga français, il s'exprime aussi en langila, qui est encore autre chose, qui est une langue destinée à échapper à l'envahisseur venu du Rwanda. Alors, il y a plusieurs éléments de réponse à ce que vous venez de dire. D'abord, l'idée que le lingala est la langue, effectivement, en cours à Kinshasa, c'est bien sûr la principale langue qui est parlée à Kinshasa, ce n'est pas la langue historiquement la plus parlée à Kinshasa. En effet, le maréchal Mobutu l'a imposé, et il a imposé à une autre langue qui était beaucoup parlée à Kinshasa à l'époque, qui n'était pas le français, qui était principalement le Kikongo, qui est la langue de l'ouest de l'ère des Congo, et la langue qu'on parle aussi beaucoup au Congo, dans une partie du Congo-Brazzaville, au nord de l'Angola. Mais le maréchal Mobutu venait du nord-ouest de la province de l'Équateur de l'ère des Congo, là-bas on parle le lingala, et il a voulu imposer sa langue à Kinshasa, la capitale. C'est donc aussi une langue, un petit peu une langue d'envahisseur, le lingala à Kinshasa. Mais les décennies, l'usage a imposé le lingala à Kinshasa. Et aujourd'hui, finalement, les Kinois sont au quotidien, ils baignent dans plusieurs langues à la fois. Le lingala est la principale, le Kikongo revient, les Kinois viennent du Congo, de tout le Congo. Le Congo est un très vaste pays dans lequel il y a plus de 300 langues locales. Toutes ces langues locales vivent encore à Kinshasa, circulent dans des micro-quartiers, dans des communautés. Et le français est une couche qui vient recouvrir tout ça, pour tous les mots un peu savants, pour tous les mots les plus récents liés à des importations occidentales, que ce soit dans les métiers de la pharmacie, par exemple, de la mécanique, etc. Et tout ceci constitue un bain linguistique dans lequel les slameurs s'expriment avec une dominante lingala. Mais finalement, quand on écoute Micro-Méga, il dit bien que ça, un des slameurs qu'on a rencontré à Kinshasa, il dit bien que son envie d'écriture, elle est née de la découverte de la versification française qu'il a faite à l'école.
À qui n'on n'aime pas trop la logique, on a nos propres idéologies. Chancelo Kopamba, Zangambo Ozala Nabatu, Baeba Kavaleur Yambetu, Mingi Mingi Nde Nabutu, Yekola Konage avant Omatana Boatu, Travaillez prenez de la peine, Beta Libanga Potondi Salibenga. Lelo ya yo kasilobi ya moninga, pomboka ebonga, esengeli kolinga kotonga, pekobo ya kotonga. Kin, c'est le parfum du lingala dans le vent de la rumba. Poésie de Papa Lutumba, montée de Papa Wemba. Recommandé à ceux qui doutent encore que la vie est belle. Bref, le Kinois est un homme qui s'habille bien pour marcher sur des poubelles. Parce que Kin, c'est la ville aux immondices rebelles. Mais Kin, c'est tout un pays fait de poubelles en saillie et des rues de marchandises dans des ligablos en treillis. Le lingila est l'argot du lingala dont le Kinois détient le label. Les églises et les bars cohabitent dans des vrais battles de décibels parce que Kin, ça reste une ville conviviale qui accueille tout le monde, depuis Dieu jusqu'au diable.
Micro-Méga, l'un des artistes, a la parole très ancrée dans le quotidien des habitants de Kinshasa, puisqu'il s'interroge sur les conditions économiques, politiques, sociales des Kinois. Et c'est le rôle, au fond, que se donnent les slameurs, Benjamin Bibas. Ils sont les porte-voix, les haut-parleurs, les interpellateurs de leurs concitoyens. Mais ils interpellent également les politiques.
Micro-Méga, dans le documentaire, le dit très bien. Il parle des politiciens. Il dit, les politiciens, bon, il ne faut pas les critiquer, ils font leur travail. Mais, et beaucoup de Kinois s'expriment ainsi parce qu'ils savent très bien ce qu'il en coûte de critiquer les politiciens. Mais les politiciens, ils sont en haut, et en haut, on ne sait pas très bien ce qui se passe en bas. Et il faut donner une voix au peuple. Et c'est pour donner une voix au peuple que le slam est utile. Pourquoi faut-il donner une voix au peuple ? Parce que le peuple est pauvre et s'exprime peu, parce que les conditions politiques sont telles que lorsque le peuple veut exprimer une opinion pas très favorable au pouvoir en place, eh bien, il est immédiatement en danger, il est réprimé, et ça on le voit bien dans le film de Dieudonné Amadi, Kinshasa Makambo, sur les jeunesses de l'UDPS, le parti de Félix Tshisekedi, père de l'actuel président de la République démocratique du Congo. Et puis, en fait, c'est le pouvoir poétique de la parole du slam qui est important ici. Une parole politique a très peu de chances d'être entendue en RD Congo parce qu'elle est très facilement réprimable dans ce pays où la violence politique est la règle. Une parole poétique peut fédérer. Alors c'est ce créneau-là qu'ont choisi de nombreux slameurs pour pouvoir exprimer la voix du peuple congolais.
Et à Kinshasa, le lingala devient le lingila. Benjamin Biba, c'est une langue inspirée et métaphorique, une langue codée.
Le lingala, c'est une langue qui provient de lingala. Donc c'est par origine, vu que le pays à un moment il était attaqué, il y avait de rebelles rwandais qui nous envahissaient et puis voilà quoi. C'est de là que le mouvement, l'esprit de cette langue créatrice qui se fait naître directement, simultanément, et c'est de là c'est pour protéger nos valeurs culturelles et nos valeurs à dire certainement des choses sur les autres qui viennent d'une manière un peu pas trop sérieuse quoi. C'est de là le lingala est né et puis voilà quoi, ça a pris de l'ampleur. Il y a des mots comme Toulouse, ça veut dire tout, tout ce qui est tout. C'est comme maternelle. Maternelle, ça veut dire matin, le matin. C'est comme Monaco. Monaco, ça veut dire voir. C'est comme Mona Lisa, c'est une œuvre d'art de Léonard de Vinci, mais ça veut dire aussi voir Mona Lisa. Il y en a d'autres mots, je pourrais dire Venezuela. Venezuela, c'est le mot d'un pays, Venezuela, mais ça veut dire Véné. C'est comme Vienne. Vienne, c'est aussi un capitale, disons, d'Autriche, mais ça veut dire en lingala, viens aussi. C'est comme Vienne, donc tu viendrais dans un futur, d'une manière un peu. Ce sont des genres de mots qu'on a juste créés pour qu'on puisse donner le sens même de cette langue par mélange de mots, de noms, pour que ça puisse donner ce sens-là. Et voilà quoi. Donc, la lingala, c'est notre langue des Quinois, les langues urbaines quinoises. Donc, le Quinois doit s'en approprier pour qu'il puisse donner certainement l'essence de cette valeur. C'est comme ça que je peux parlementer. Petus Nangalema, Donambe Jangalema Clémentine na Lufungu la Porto Rico. Ça veut dire, maman petit, donne-moi le clé, je ouvre la porte. Clémentine, ça veut dire clé. Porto Rico, c'est une porte.
Le lingala, c'est la langue urbaine quinoise, nous explique John Loeb. Et j'aimerais, Benjamin Vibas, que l'on revienne au fond sur le projet des slameurs. Ils font partie du peuple, c'est ce qu'ils disent. Ils font tout passer par la parole et ils pensent que c'est le moyen de communication le plus efficace. Il faut rappeler qu'on est dans un contexte d'analphabétisme. En RDC, c'est 20 millions d'analphabètes environ sur 70 millions d'habitants. Comment résistent-elles et contre quoi ?
Alors pour moi, dans Kinshasa, des histoires à nous, on a eu l'occasion de rencontrer trois types de slameurs, en tout cas ceux qu'on a retenus au montage, ceux qui, pour nous, avaient la parole la plus signifiante. Et ils avaient la parole la plus signifiante eu égard à un message principal qui est la synthèse de ce qu'ils disent tous les trois. Le slam, la parole poétique qu'il permet, est une langue qui permet de résister à la violence, et justement la violence politique généralisée, qui est l'histoire, qui est la règle dans l'histoire de RD Congo. En fait, il y a trois occurrences. Micromega nous dit « Ah bah, les politiciens, ils ont leur monde et le peuple a son monde. Et pour que le peuple puisse s'exprimer, il ne peut pas critiquer les politiciens. Donc du coup, il faut trouver une autre langue. Et cette langue, c'est la langue poétique du slam. » Un peu plus loin, John Loeb, qu'on vient d'entendre, nous parle de cette pratique du lingala. Et le lingala, c'est une langue camouflée. C'est une langue qui permet à des jeunes quinois de pouvoir échanger entre eux sans être entendus par ou compris par l'envahisseur qui, à un moment, entre 97 et 2001, à Kinshasa, était l'envahisseur venu du Rwanda, qui avait installé le président Laurent-Désiré Kabila à l'époque. Et il fallait échapper à leur pression, échapper à leur violence, finalement. Hein. Ce qu'on pouvait échanger entre soi, entre Quinois, si c'était hostile à l'envahisseur, eh ben, on pouvait le payer très cher. Donc, la langue qui résiste à la violence de l'envahisseur. Et une troisième occurrence, Oracle, slameuse musicienne, qui parle en tant que femme et qui dit « Moi, je viens partiellement du centre et partiellement de l'est du Congo par ma mère. Et à l'est de la RD Congo, j'ai été la partie du pays où les violences ont été les plus graves et les plus généralisées. Elles se sont notamment concentrées sur les femmes, puisque le viol a été une arme de guerre. Et toutes ces violences qu'ont subies les femmes, eh bien, il faut qu'elles puissent le dire. Elles ont du mal à se revendiquer comme victimes, d'abord parce que c'est difficile à faire, ensuite parce que cela met en danger ou en colère des gens qui exercent encore le pouvoir à l'est de la RD Congo, des leaders militaires, par exemple, ou paramilitaires. Et par contre, on peut dire sa souffrance, on peut essayer de la sublimer, on peut essayer de l'exorciser à travers une parole poétique, et c'est à ça que sert le slam.
À Kinshasa, les slameurs sont également des slameuses, et elles ne mâchent pas leurs mots, la preuve dans le texte, avec Oracle.
RDC, à Kinshasa, c'est une coutume, péter la forme même avec l'absence de la thune. Emprunter le fringue, histoire de garder le style. Kinshasa, c'est la bière, les jolis go every day. C'est Papa Wemba qui te chante Show Me the Way. C'est la rue qui te fait peur et t'excite une fois qu'on arrive la nuit. C'est des jeunes qui possèdent l'essence de la débrouillade pour donner à leur vie un sens. Et sans la rumba congolaise, tout Kinshasa serait en deuil. Tout simplement pour te dire qu'à Kinshasa, c'est la fête every day. Les mondes stone, les gens se trahissent. Le frère se haïssent, c'est notre façon de s'unir. Tantôt frimeur, palabreux, tantôt rêveur, énoxeur, plein de beaux parleurs. Nous qui noirs sommes à l'image de notre ville. Spontané, extraverti et unique en bien des aspects. Et quand nos rêves ne se réalisent, on les simule tout simplement. Voilà pourquoi vous entendrez, à cause de la mentalité entre religion qui tendit, dites sap, ambiance matolo, et ma banga qui est bandal, c'est Paris. Un tour à l'Emba de l'échangeur qui est la tour Eiffel et de l'université de Kinshasa, comparé en termes d'image à Sorbonne, qui est l'Emba aussi et Paris.
Je ne me tairai jamais, ça c'est sûr. Je ne me tairai jamais. Aujourd'hui, on peut passer par tous les gens qui sont dans le monde du hip-hop et tout. Oracle, elle a son petit nom. C'est la queen, tu vois. Mais ce respect-là, on l'a mérité. C'est pas facile d'être une femme dans la scène artistique. C'est pas facile. On est venu comme tout autre artiste et on s'est dit, on a toutes nos chances, mais vous voyez que non, c'est pas toujours évident. Vous êtes face à beaucoup de réalités qui vous font réfléchir par rapport à l'art. Je sais qu'il y a beaucoup, elles ont même arrêté, tu vois, à cause de ça. Beaucoup, elles ont dérouté. Mais moi, je pense qu'on continue à se battre. Parce que moi, je suis Louba d'un côté, du côté de mon papa. Les Louba, c'est une tribu où les femmes, elles ont vraiment la gueule fermée. Déjà, chez les Balouba, une femme qui a fait les droits comme moi, c'est un problème. Donc, vous ne pouvez pas, je dois me taire. Et si je pars du côté de ma mère, c'est une dame qui est de l'Est. Elle a été mouchée parce qu'elle est morte. Les Bashi, ce sont des enfants qui sont nés entre le Rwandais et les Congolais. Donc, il y a déjà un problème là par rapport au peuple. Et en plus, à l'Est, beaucoup de femmes, beaucoup de membres de ma famille, elles ont été violées, assassinées et tuées. C'est ce qui arrive trop souvent lorsqu'il y a une forte tension dans le pays. Ce sont des femmes beaucoup plus de l'Est qui subissent. Et moi, je regardais la situation de la femme. Et au fond de moi, je me disais, il faut que je parle. Il faut que je parle. C'est même pour ça que je suis allé au-delà du rap dans la performance. Parce que je me suis dit, il faut que je parle. Comme l'art, la culture, c'est un terrain neutre. Ou même les plus violents de tous les ennemis que tu peux avoir peuvent rester là et t'écouter jusqu'à la fin. Et je me suis dit, puisqu'on a la chance d'être artiste, pourquoi ne pas communiquer avec toute la douceur possible, mais essayer de communiquer là-dessus. Mais au-delà de tous ces actes qui ont été faits, les problèmes sont aussi de communiquer au mental de la femme. Parce que si la femme ne prend pas conscience de qui elle est ou de ce qu'elle peut, parce qu'il y a beaucoup aussi aujourd'hui, elles ont peut-être été violées, tout ça, pour elles, leur vie s'est arrêtée. Mais peut-être qu'elles peuvent se redonner une chance. Ceux qui les ont fait du mal ne méritent pas qu'elles arrêtent leur vie comme ça. Et moi, c'est ça mon champ des batailles, c'est ça mon truc.
La condition des quinoises distillée par les formules poétiques et politiques de la slameuse Oracle dans une société où c'est double pénalité pour les femmes. L'une des artistes que l'on entend dans Kinshasa des histoires à nous, où l'on entend également le réalisateur de Kinshasa, Makambo, auquel nous consacrons cette émission, un artiste que vous avez vu et entendu grandir, Benjamin Bibas en quelque sorte.
Oui, alors j'ai été à assez frappé, notamment par son dernier film, donc Dieudo Amadi, Kinshasa Makambo, qui raconte la lutte impuissante, il faut le dire, des jeunesses de l'UDPS. On voit l'immensité du désir de changement de ces jeunes, les risques infinis qu'ils prennent, et l'absolue dérision et l'absolue insignifiance du résultat politique. Ce contraste, je trouve, dans son film est saisissant. Dieudo Amadi, dans Kinshasa des histoires à nous, à un moment prend la parole, et Kinshasa des histoires à nous est un titre qui vient de lui, c'est une citation de Dieudo Amadi. Il dit à un moment, c'est important pour nous, aujourd'hui, les Congolais, les Kinois, c'est important pour nous de raconter des histoires à nous, que ce soit nous qui choisissions les principaux thèmes qui nous constituent, et que ce soit nous qui présentions notre propre visage, que nous construisions nous-mêmes notre représentation, et que nous la présentions au reste du monde. Je trouve cette idée très ambitieuse au vu des conditions de production documentaire, encore aujourd'hui en RD Congo, mais je pense que c'est une idée très importante, effectivement, pour que la RD Congo se construise et construise également elle-même son image. Et en même temps, moi qui ai passé les 10 dernières années de ma vie à essayer de raconter, de documenter ce pays, depuis l'extérieur, depuis la France, aussi un peu la Belgique.
En vous rendant régulièrement sur le terrain.
En me rendant, bien sûr, régulièrement sur le terrain, à peu près dans toutes les régions de la RD Congo, et celles notamment qui ont le plus souffert. Je me disais, et c'est la question que je vais poser à Dieudo Amadi, est-ce que c'est important pour toi, Dieudo, est-ce que c'est important que nous autres, qui ne sommes pas Congolais, même si on a partagé un peu notre expérience, est-ce que c'est important qu'on continue à raconter votre histoire ?
Merci Benjamin. Dieudo vous entend et maintenant il va vous répondre.
Merci Benjamin pour la question. Oui, je pense que c'est très important. Les problèmes, c'était justement dans l'équilibre à trouver. Parce qu'on était exposés au regard des autres, et constamment. Et nous, on n'osait pas, justement, opposer à notre regard. Mais si on arrive à trouver un équilibre, une espèce de dialogue, je pense que cette confrontation des regards sera tout à fait bénéfique pour la reconstruction d'un pays comme le Congo. Merci.
Et d'ailleurs, dans votre film, vous citez Lumumba, l'histoire du Congo doit être écrite par les Congolais.
De toutes les manières, on l'a vu, l'histoire nous le rappelle tout le temps, c'est que ce qu'on n'a pas fait par nous-mêmes n'arrive pas, ne se produit pas. C'est que la meilleure façon d'essayer de nous en sortir, c'est de commencer à se poser les bonnes questions. Et une des premières questions, c'est que quelle est la responsabilité de nous-mêmes par rapport à la situation que nous traversons. Et quand nous avons posé ces questions, on s'en rend vite compte que c'est à nous de faire les choses pour que ça s'améliore, pour que ça change.
Message reçu.
Merci.
Merci beaucoup. Dieudonné Amadi, merci également à Christian, ici présent, personnage de votre film Kinshasa Makambo. Merci aussi à Benjamin Bibas et Sébastien Godret. Leur documentaire est présenté au musée d'art modeste de la ville de Sète. Et vous pouvez également, chers auditeurs, découvrir un extrait du film Kinshasa Makambo sur la page RFI.fr de la Marche du Monde. Il me reste à vous saluer chaleureusement. Exprimez-vous sur les réseaux sociaux, réagissez, podcastez. Cette émission réalisée par Richard Rifono, c'est la vôtre. Thank you.